Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast, le balado officiel de l'Omnium Banque nationale qui est déjà bien loin derrière nous, à cet Omnium à Montréal, mais on en aura des échos un peu plus tard quand on va en parler des match-ups à surveiller. Là, il y a une odeur d'Omnium Banque nationale dans quelques match-ups de premier tour au US Open. Et oui, c'est le dernier grand chelem de la saison, ça commence. Je dois avouer, là, moi, le US Open, c'est le tournoi dans lequel généralement je m'investis le plus parce que c'est lui qui fit le plus avec mon horaire de hockey, c'est-à-dire commence tard, finit tard, et le US Open, ben ça finit tard. Question de faire jaser les joueurs et les joueuses peut-être encore plus parce que si ça a jasé à Montréal et Cincinnati sur les heures tardives, ben attachez vos tucs, c'est pas rare qu'au US Open, ça finit très tard. Alors oui, c'est le début du US Open, on va regarder ce qui va se passer de ce côté-là cette semaine. Mais avant tout, on va faire le résultat, le résumé de ce qui s'est passé la semaine passée. Mais avant tout, Isabelle Étier, tu te joins avec nous cette semaine. Comment te portes-tu? Comment vas-tu? Tu as un grand sourire, là, puis je sais pourquoi tu nous en as parlé hors d'onde. Vas-y, dévoile-nous pourquoi tu souris autant.
Bien, aujourd'hui, c'est le US Open qui commence. Vous savez, mon admiration, justement, puis en fait, ma mission de vie de vraiment d'amener l'équité, l'égalité au niveau des sports. Et là, j'ai fait un petit post tantôt, j'ai repartagé, on va en parler un peu plus tard, de la collection d'Adidas. Et j'ai tagué Billie Jean King. Et Billie Jean King elle-même a repartagé mon story Instagram. Fait que là, je capote. Je suis dans tous mes états. C'est la plus grande. C'est l'inspiration pour tous. Et bon, ouais, c'est une belle journée pour commencer le US Open parce que cette année, on souligne d'ailleurs les 50 ans de la bourse égale au grand chelem du US Open. Donc, bref, je vous en parle un peu plus tard, mais là, je suis un peu énervée.
Ben, c'est pas gênant, c'est pas gênant comme on dit de ce côté-là. Billie Jean King, je le répète, là, pour moi, c'est la plus grande. En fait, je vais dire l'athlète la plus importante, tout sport confondu. Ouais. Et vraiment, j'ai défendu ça bec et ongles à plusieurs reprises en ondes. Je me suis mis sur le spot. Puis tu viendras de la rencontre qu'on a eue. C'était quoi? C'est à peu près à ce moment-ci de l'année, là, au mois de septembre, peut-être l'année passée.
Exact.
Et j'ai littéralement fondu en larmes là, quand je l'ai vu. Puis je ne suis pas un gars qui pleure beaucoup. Là. Alors, rencontrer Billie Jean King et puis j'ai pu lui dire ça. Écoutez, c'est une grande athlète. Puis elle est une des principales raisons pour laquelle le tennis est des dizaines d'années en avant de tous les autres sports en termes d'équité. Oui, il reste encore du chemin à faire, mais le tennis est certainement chef de file dans le sport féminin. Là. C'est indéniable. Quand on regarde le classement Forbes des athlètes les mieux payés, le tennis, année après année, domine outrageusement. Hugues, comment te portes-tu en direct du Parc Jarry et tes bureaux de Tennis Montréal?
Ça va super bien. Moi aussi, c'est mon grand chelem préféré parce que c'est notre grand chelem, celui qui se passe en Amérique du Nord, qui est tout près de Montréal. On y va souvent. Beaucoup de gens font des week-ends durant la fête du travail à New York et en profitent pour aller faire un petit tour dans le Queens à Flushing Meadows. Justement, au Centre national Billie Jean King, c'est le nom que porte le Centre national depuis quelques années maintenant. Puis on est chanceux, c'est vrai, l'équipe de Sur la ligne, d'avoir eu autant de contacts avec Billie Jean King. Isabelle qui vient de faire repartager une story. Nous, on l'a rencontré l'an passé à ces deux. Tennis Canada l'avait invité, évidemment, dans le cadre de ces deux Montréal, cette grande rencontre annuelle créativité et affaires que lui a à Montréal. Et c'est nous qui avions organisé cette venue-là de Billie Jean King. Une grande femme, c'est une icône de la culture pop, j'ai envie de dire maintenant. Ça dépasse le tennis, ça dépasse le sport. C'est quelqu'un de vraiment important dans l'histoire des États-Unis à plusieurs égards, notamment au niveau de l'équité des genres, évidemment. Tout le monde se souvient de la guerre des sexes avec Bobby Riggs. Donc, on est vraiment choyé d'avoir cette relation-là quand même, d'avoir pu la côtoyer un petit peu. Puis oui, je suis vraiment excité par ce US Open qui commence, non seulement parce qu'on rêve d'une nouvelle finale Djokovic-Alcaraz, il y a un enjeu important qui se déroule à New York, mais surtout la fébrilité des night sessions, le côté électrique à New York qui est inégalé dans le monde du tennis. Ces night sessions devant 21 000 personnes sous les projecteurs du Arthur Ashe Court Central. La table est mise là, pour un deux semaines vraiment excitant pour tout le monde.
Avec la plus grande bourse de l'histoire, et on en reparlera parce que, il y a le côté équité par rapport à ça, mais les chiffres sont assez spectaculaires. Je regardais même les bourses en qualification. Là. Ça dépasse certains tournois Challenger. assez aisément, même pour un premier tour de qualification. On en reparlera peut-être dans le cas d'Alexis Galarneau. Je joins à la conversation Nicolas Richard. Nicolas, est-ce qu'il fait chaud dans le Saint-Jérôme? L'Internet semble avoir de la difficulté de ton côté.
Oui, l'ordinateur qui a lâché au mauvais moment, je m'en excuse, mais oui, ça va plutôt bien à Mirabel, dois-je le répéter, je suis un sudiste.
Mais oui,
depuis que tu voles de tes propres ailes.
Voilà, j'ai seulement une assiette, j'ai pas de vaisselle, mais tout va bien.
Et Nico, ouais. est-ce que tu arbores fièrement un t-shirt Roger Federer?
Tout à fait, maintenant qu'il est à la retraite, je peux me permettre de plus être objectif. En arborant un Roger Federer assumé.
J'ai un petit trivia pour commencer avec le US Open et le Big Three, justement. Ça fait combien de temps qu'un membre du Big Three n'a pas gagné le US Open?
Ça fait au moins, parce que Tim...
Ça doit être...
C'est juste avant Tim, ça veut dire 2017?
Non.
C'est pas Roddick en 2003 non plus.
Non, un membre du Big Three, Nico.
C'est Djokovic le dernier à l'avoir gagné. C'est le seul tournoi qui a eu aucun gagnant du Big Three depuis 4 ans. Donc, c'est quand même impressionnant. Là. Donc, je pense que Djokovic a aussi ça en tête de se remettre dans la lignée des vainqueurs du Big Three au US Open. La dernière fois que Federer avait gagné, c'était en... Ça fait très longtemps, je crois.
C'est sa série de 5, là.
Ouais, je crois que c'était en 2012, en fait. Donc,
c'est 2008, son dernier.
Son dernier, donc 2004-2008, tu as raison. 2004-2008, les 5.
Ouais. Et c'est 2019, la dernière fois que c'est ça, dernier du Big Three, c'est Rafael Nadal qui l'avait emporté. Et c'est ça, c'est Tim Medvedev Alcaraz qui l'a emporté. Et c'est drôle, ça, parce qu'on en a parlé à quelques reprises. Je me souviens, moi, Nico, d'avoir fait un épisode avec toi quand Dominic Tim avait remporté le US Open. On s'était dit, ben voilà, elle est là, la cassure.
Il est parti.
Elle est là, la cassure avec le Big Three. Et année après année, Medvedev, on se dit, elle est là, la cassure. Et on est encore là, Novak Djokovic a déjà remporté un grand chelem, deux grands chelems cette année. Pourrait très bien en remporter 3 sur 4. Alors voilà, 4 ans plus tard, on est encore là. Écoutez, je veux, avant qu'on tombe dans le vif du sujet, juste rapidement faire une mention à Sylvain Bruneau. Qui a annoncé qu'il allait quitter Tennis Canada. On n'en parlera pas trop parce qu'on va le recevoir la semaine prochaine et on va faire une plus longue entrevue là, en sa compagnie. Mais ce qui est intéressant de mentionner, c'est que c'est un des meilleurs entraîneurs au monde qui va quitter Tennis Canada. Il ne faut pas se leurrer. C'est un gars qui a remporté des grands chelems, qui a remporté des grands tournois avec Bianca Andreescu et qui a contribué à développer une génération de tennis exceptionnelle. Je pense qu'il veut passer un peu plus de temps avec sa famille, Sylvain Bruneau, et c'est très, très, très justifié, j'ai l'impression. Bien hâte de voir ce que l'avenir va lui réserver. Je pense que lui-même n'en est pas 100% convaincu encore de ce que l'avenir lui réserve, mais on va le recevoir en entrevue. On en profitera la semaine prochaine pour faire le bilan de mi-tournoi du US Open avec un des meilleurs entraîneurs. Mais je voulais quand même saluer Sylvain Bruneau qui, je vais le dire comme ça, va être une lourde perte là, pour Tennis Canada quand tu perds un entraîneur de cette qualité-là. Et peut-être une mention aussi, Hugues, parce que toi, c'est un dossier qui va faire jaser pas mal. Il y a quelques joueurs qui ont annoncé leur retraite, dont Jack Sock, parce qu'il a décidé d'aller jouer au pickleball. Et ça, pour beaucoup de joueurs de tennis, ça peut faire controverse. Est-ce que vous allez adapter à Tennis Montréal de plus en plus de terrains de pickleball pour servir tout le monde?
Ben oui, moi je suis de l'école où il faut collaborer avec le pickleball et avec le paddle aussi qui commence à monter, qui est extrêmement fort en Amérique du Sud, en Espagne et en France notamment. Mais le pickleball est le sport qui a la plus forte croissance du côté nord-américain. Donc, il faut, au niveau des infrastructures, travailler ensemble pour optimiser les espaces. Donc, moi, je ne suis pas anti-pickleball. Je pense qu'il faut gérer ça ensemble. Et c'est deux sports qui peuvent être complémentaires aussi. Un sport qui peut, le pickleball, amener au tennis aussi. Il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à aimer ça. Au début, on disait, bon, c'est un sport pour des gens un peu plus âgés, mais ce n'est pas le cas. Ça rajeunit d'année en année. Et après, oui, c'est étonnant de voir des joueurs comme Agassi, McEnroe, Roddick qui ont fait les matchs exhibition de pickleball. Mais soyons clairs, c'est un secteur en forte croissance. C'est un business qui est à l'échant pour beaucoup de gens, pour les fabricants, pour les détaillants. Il faut travailler ensemble. Puis encore une fois, je rappelle cette époque où moi, on jouait dans des clubs de tennis où il y avait des terrains de racquetball et de squash qui cohabitaient. Et ça aide à avoir des investissements pour des infrastructures plus grandes. Donc moi, je pense qu'il faut collaborer ensemble.
Ben écoute, et puis s'il fallait que Jack Sock devienne numéro un mondial au pickleball, ça va peut-être occuper un petit glissement de l'autre côté de certains joueurs. Et je peux te dire une chose, moi j'ai remarqué il y a peut-être à peine un an et demi, là, à Longueuil, pas loin de chez nous, à côté de l'aréna Jean-Béliveau, on a bâti des terrains de tennis. Et je suis pas sûr que j'ai vu 10 fois des joueurs de tennis, mais des joueurs de pickleball, j'en vois à tous les jours. C'est un sport qui grandit à vitesse grand V, ça c'est certain. Mais parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. On n'est pas le radio podcast officiel de Pickleball Montréal, mais de l'Omnium Banque Nationale. Nico, je veux commencer avec toi parce que Leila Fernandez était à Cleveland et... Dans les circonstances, oh, Hugues, je te sens hésitant, mais dans les circonstances, je sens que c'est quand même une bonne performance, un quart de finale quand même. Une fois de plus, elle a réussi à enchaîner quelques victoires après une défaite en qualification à Cincinnati.
Oui, puis en point tel, Alex, j'ai quasiment envie de te dire que cette défaite-là, elle est décevante dans la mesure où je voyais vraiment Leila aller plus loin. Elle avait tellement de momentum, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Leila aussi confiante, aussi structurée dans son jeu. Contre une fille qui était prenable, disons les choses telles qu'elles sont, Tatiana Maria, qui était pour Leila une proie facile, malheureusement, perd en deux manches. Ça lui donne, j'imagine, un peu de rythme pour le US Open, mais quand même, dans les circonstances, là, puis je tiens à le souligner, dans le contexte, c'est un peu décevant parce qu'on sentait vraiment que Leila avait un momentum intéressant.
Oui, mais n'oubliez pas, les gars, que son deuxième tour a été gagné par abandon. Là. Il n'y a pas eu de match au deuxième tour, donc c'est pas un si gros tournoi que ça. Puis moi, j'ai vu son match, encore une fois, des enjeux de lancer de balle, au point où elle a eu un warning de l'arbitre à un moment donné.
C'est presque gênant.
Oui, là, elle disait, je me souviens, en conférence de presse à l'Omnium, que c'est des choses qui arrivaient, évidemment, mais ça arrive beaucoup trop pour Leila. Sa balle lui échappe souvent au moment de son lancer de balle. On le rappelle, c'est le seul moment qu'on contrôle à 100% au tennis. Quand on lance la balle, on veut que son lancer de balle soit prévisible, soit fiable. Donc, moi, je n'ai pas trouvé sa performance en quart de finale très, très convaincante, honnêtement. Là. J'ai bien hâte de voir comment elle va aborder l'US Open. Après cette victoire superbe contre Adad Maia à Montréal, on sait ce qu'elle peut produire comme tennis, mais je ne suis pas rassuré, disons, quand même, des deux dernières semaines.
Bon, là, les gars, je vous trouve... un peu sévère dans une saison où ça a été compliqué toute la saison pour Leila. Et là, elle vient d'enchaîner deux tournois sur trois avec trois victoires. Oui, Clara Thompson, elle l'a gagné par forfait, mais elle lui a donné une méchante rince au premier tour, tu vas me dire, au premier set. Un 6-0, ouais. Tu vas me dire, d'accord, mais elle était possiblement blessée, peut-être, mais en même temps, un 6-0 contre un bel espoir comme Clara Thompson et un premier tour contre Noskova, 6-0, 6-2, une autre rince. Noskova, on en parle comme un des plus bels espoirs du tennis féminin. C'est vrai qu'elle aurait pu battre Tatiana Maria. C'est vrai que le lancer de balle, bon, peut être problématique à quelques occasions, mais il reste que, écoute, je ne sais pas, Isa, si tu es d'accord avec moi, mais au final, c'est quand même deux tournois sur trois où elle a enchaîné quelques victoires et dans le contexte, c'est quand même, en tout cas, à mon sens, à moi, intéressant, mais je ne sais pas si tu vas être sévère comme les deux beaux garçons à mes côtés.
Ben moi, je suis plus du côté positive, vous le savez. Puis moi, ce que j'aime voir, c'est que la confiance est importante. Moi, j'ai senti quand même une Leila beaucoup plus confiante, beaucoup plus engagée dans son jeu. Maintenant, bon, c'est sûr que le lancer de balle, oui, ça, c'est en effet, on dirait que c'est moi qui fais des services. Puis c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Mais je pense que faut quand même être positif. Puis je pense que ça va être... Elle est bien aussi aux États-Unis. Elle est, tu sais, au US Open, elle a des bonnes mémoires. Donc, je pense que ça va l'aider dans ce tournoi-là. Ça a bien été à Montréal, somme toute. Puis je pense qu'on peut s'attendre à avoir quelque chose de bien quand même là, cette semaine.
On en reparlera un peu plus tard, mais moi, je lui ai donné quelques tours. Et son premier tour, il va être compliqué au US Open là, contre Alexandrova, mais je lui ai quand même donné quelques tours. Et la raison est la suivante. Je pense qu'elle a quand même pris du rythme. Mais enfin, on verra. Peut-être qu'elle m'a fait mentir et qu'effectivement, elle continuera d'être un peu inconstante. Mais effectivement, le US Open, où elle a déjà connu de bonnes sensations, des performances exceptionnelles, c'est peut-être pas un mauvais endroit pour connaître une bonne performance cette année. On surveillait également les performances en qualification de plusieurs Canadiens. Commençons avec Alexis Gallarneau, Nico. Bon, il a perdu contre Stricker au premier tour, mais est-ce que c'est quand même une victoire d'être dans le tableau des qualifications, mine de rien, ou rendu là, ben, on aurait espéré de voir faire quelques tours?
Ben, c'est sûr qu'évidemment que tant qu'à être là, on a aimé voir Alexis, surtout que sa famille également s'est encore déplacée pour le suivre. Hein. Ils le suivent depuis Toronto. Je pense que pour les Gallardo, ça aurait été chouette d'avoir Alexis compétitionner dans le tournoi, à vrai dire. Là. Mais oui, effectivement, tu l'as dit, le simple fait d'être dans les qualifs. Puis rappelez-vous, on se disait, la victoire de Granby, oui, c'est une victoire, mais sur le plan du classement, ça va lui apporter plein d'opportunités, notamment la chance de pouvoir se qualifier, entre guillemets, plus aisément pour ce genre de tournoi. Malheureusement, elle a raté sa chance cette semaine au US Open, mais ce n'est que le début. Si Alexis peut maintenir cette place dans le top 200, peut-être même, qui sait, dès l'an prochain, le top 150, ben, ce sont des tournois qui seront peut-être plus faciles d'accès là, pour l'avenir. Puis c'est, je pense, c'est ce qu'il faut retenir de cette grande saison pour Alexis Gallardo.
Hugues, son adversaire, évidemment, était beaucoup mieux classé que lui. Ouais. En fait, c'est un gars qui était à la porte du tableau principal avec son 128e rang mondial. C'est un gars qui s'est finalement qualifié. Est-ce que, d'une certaine manière, bon, l'expression que j'aime utiliser, ça vient relativiser sa défaite, ou c'était quand même un gars à sa portée? Là. On l'a vu, là, la façon dont il a chauffé Cerundolo, c'est un gars qu'il aurait pu battre.
Oui, ben, il est rendu prêt d'aller chercher ces victoires-là contre des joueurs entre la 100e, la 150e place mondiale. Striker, tu l'as dit, un joueur suisse, donc 128e mondial cette semaine. Il gagne le premier set quand même, Alexis 6-3. Après, Striker a trouvé une solution à son jeu. J'ai malheureusement pas pu voir le match, là, mais 3-6, 6-2, 6-0, le score final. C'est quand même bien qu'il ait été dans le tableau des qualifs, parce que à 200, c'est pas nécessairement automatique que tu rentres dans le tableau des qualifications du US Open. Donc, c'est quand même une bonne expérience qui a été cherchée. Et moi aussi, je pense que globalement, sa saison d'été 2023 est positive pour Alexis. Mais là, il faut qu'il continue d'aller chercher des quarts de finale, des demi en Challenger, puis peut-être une victoire par-ci par-là, comme à Granby, là, pour se rapprocher plutôt du 140e, 150e rang, là, pour faciliter les choses pour la suite. Mais bonne année pour Alexis. Là, il peut bien se préparer pour la Coupe Davis, qui va suivre deux jours après, évidemment, à la fin du US Open. Qui va être à Bologne cette année, donc pour qu'il puisse, il pourra jouer un rôle important, je pense, sur l'équipe, où il ne sera pas juste là pour encourager les autres, mais il va être sur le terrain, Alexis, en Coupe.
Surtout avec l'absence des gros canons, là, risque d'avoir une place plus intéressante. J'ai hâte de voir. Les dés ne sont pas pipés pour la Coupe Davis, on en fera une émission spéciale, mais je ne suis pas 100% convaincu que ce sera Vachek et Gabriel Diallo qui prendront le lead. Je pense qu'a priori, ça devrait être les deux joueurs qui... Mais sortons pas Alexis de l'équation trop rapidement. Là. C'est là où je veux en venir, parce que Vachek ne connaît pas d'excellent moment non plus cette année. Il a plus d'expérience. Enfin, on verra. On va y revenir à la Coupe Davis. On va faire une émission spéciale juste là-dessus. D'ailleurs, on a des entrevues de planifier à ce moment-là. Là où je veux en venir, par contre, c'est qu'il y a une progression pour Alexis. Tu dis que c'est une belle année. L'an passé, il avait... décidé de faire l'impasse sur Granby en espérant se qualifier, n'était pas rentré dans le tableau des qualifications, voulait rentrer entre guillemets comme un alternate ou comme un bon à la dernière minute. Et là, il est rentré dans le tableau des qualifications et va chercher quand même, et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle, une bourse de 22 000 $ pour une défaite au premier tour en qualification. Écoute, ça là, le US Open, honnêtement, c'est le plus gros prize money, comme on dit, la plus grosse bourse. Et si on est capable de donner des 22 000 $ à des gars de qualification, parce qu'on s'entend, quand tu es 200e au monde, tu es parmi les meilleurs au monde dans n'importe quelle discipline, là, que ce soit sport, scientifique, etc. Tu sais, Nico est probablement le 150e meilleur journaliste à Saint-Jérôme.
Denis Abel. Ah, voilà.
On est sur la même page. Non, mais là où je voulais en venir, c'est que c'était juste, entre guillemets, un chirp, comme on dit. Mais c'est important que ces joueurs-là reçoivent un certain montant d'argent à la hauteur du talent qu'ils représentent dans leur sport. Là,
je quand tu te qualifies ou tu tentes de te qualifier pour un grand chelem, c'est déjà un succès et la preuve de ton engagement puis du travail que tu mets sur le circuit. Tu parlais de la bourse d'Alexis Gallardo. C'est plus 8% le prize money du US Open. On en parlera plus un peu tout à l'heure. Là. Donc, plus de 60 millions, plus de 65 millions cette année, mais surtout au premier tour, c'est le point que je veux faire, 81 000 $ Fait évidemment, avec les voyages, les équipes à payer, c'est pas un salaire annuel confortable, même si on le rapporte sur 12 mois, mais ça rend les choses plus faciles là, quand tu réussis à rentrer dans les prize money du US Open.
Ben, tu sais, avec des bourses tournant autour de 50, 60 000 $ pour d'autres grands chelems et premiers tours, si tu ne fais que te qualifier et jouer des premiers tours, tu peux essentiellement payer tes dépenses de la saison et avoir un certain
revenu.
C'est ça l'avantage. Et je voulais spécifier le 22 000 $ en qualification parce que c'est, si je ne me trompe pas, quand il a gagné Granby, c'était 17 000 $ alors qu'il avait gagné le tournoi à Granby comme champion. Alors 22 000 en qualification, et c'est important pour la survie du sport et pour ces joueurs-là qui trop souvent sont sous-estimés quand on regarde d'autres sports d'équipe là, par rapport à leur valeur monétaire et ce qu'ils représentent en termes de talent et leur plan sur le rang mondial. Diallo était également en action. Il a perdu, lui, au premier tour aussi. Commentaire sur cette défaite-là au premier tour des qualifications, Nico, ou pas grand-chose à dire. Il est rendu là, c'est sa première année et puis c'est de l'expérience dans le sac à dos.
Complètement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Là, il est de retour à Montréal. Je pense qu'il passe temps en famille, avec ses amis, sa copine également. Donc, j'ai voulu faire du bien après le gros mois d'août qu'il a connu. À Toronto, était la coqueluche. On sait à quel point il a été exceptionnel aussi. Beaucoup d'émotions, je pense aussi beaucoup de stress, là, mine de rien, ce genre de tournoi, ce genre d'adrénaline. Je pense que c'est extrêmement prenant. Donc, pour lui de revenir chez lui, se reposer, ça a été une grosse saison pour lui, une saison de transition pendant laquelle il a vraiment éclos. Oui, évidemment, on aurait aimé le voir là, comme Alexis, mais il n'y en a pas moins que pour lui, présentement, je pense que de revenir aux sources, c'est peut-être la meilleure chose.
C'est quand même un gars qui arrivait avec beaucoup de rythme là, dans ce US Open. Il est passé tout près de se qualifier. Il a perdu au dernier tour des qualifications, mais c'est un gars qui venait de faire la finale au Challenger de Banja Luka. Alors, c'est quand même un gars qui avait beaucoup de rythme, pas nécessairement un adversaire facile, 148e mondial pour l'adversaire de Diallo. Hugues, pas spécial également, a fait un deuxième tour. Ça a été le meilleur Canadien en qualification pour Pospisil. Est-ce que justement cette performance-là montrant que il est allé plus loin que Diallo et à Galarno, est-ce que ça pourrait être, comme on dit, un élément dans la balance pour la Coupe Davis ou c'est peut-être juste le tableau qui le favorisait d'une certaine manière?
Je pense qu'il va être un joueur, il va être un acteur important de l'équipe de Coupe Davis, tant en simple qu'en double, Vachek, mais on lui a parlé à Granby, on s'en souvient. Je ne suis pas certain que ses ambitions cet automne sont en ligne avec la réalité. Il disait qu'il souhaitait revenir top 60, top 50. Je vois difficilement comment Vachek pourrait revenir à ce niveau-là en ce moment. Par contre, après sa déconfiture au premier tour de Granby, c'était quand même bien de le voir passer un tour en qualif du US Open.
Pour ceux que ça intéresse, c'est un 35 000 $ ou à peu près là, en dollars américains, je le rappelle, pour la bourse, un deuxième tour en qualification. Dernier élément duquel je veux parler pour les qualifications, Eugénie Bouchard. Elle a gagné un premier tour, elle, c'est quand même pas mauvais dans les circonstances. Et là, Hugues, elle a perdu au deuxième tour contre Yastremska. Et de tous les adversaires qu'elle pouvait affronter, je suis pas sûr que c'est le nom qu'elle préfère avoir parce que, elle avait fait un commentaire il n'y a pas si longtemps à l'effet qu'elle sous-entendait, en gros, là, que Yastremska était dopée et il n'y a pas eu de poignée de main. Je ne sais pas si tu veux commenter.
On a eu droit à un no handshake qui n'était pas relié à la situation en Ukraine. Non, bien que Yastremska soit ukrainienne, mais là, ce n'était pas la situation. Eugénie, je suis content qu'elle ait gagné un tour. Eugénie doit, un peu comme Miloš, être en train d'évaluer en cet automne là, que ça va être quoi la suite au résultat du US Open. Miloš, on verra ce qui se passera aujourd'hui contre Stefanos Tsitsipas, mais son US Open va lui donner quelques indices sur la suite. Eugénie aussi, je pense, va nous revenir d'ici la fin de l'année avec une position sur la suite, selon moi. Cette non-poignée de main, Yastremska, on l'a vu, est allé directement serrer la main à l'arbitre. Elle a ignoré Eugénie complètement, donc une allégation. Puis rappelons que Eugénie, ce n'est pas la première fois. Elle l'avait fait avec Sharapova aussi.
Elle n'a pas la langue dans sa poche.
Exactement. Donc, sur ce point-là, elle est sans équivoque. Elle dénonce si c'est avéré ou même si ce n'est pas avéré, s'il y a une rumeur de dopage. Donc, je pense qu'elle vit bien avec ça. Elle est allée voir les matchs de New York le soir de son élimination. Elle est présente sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que ça va l'empêcher de dormir, qu'il n'y a pas eu de poignée de main.
Ouais, non, je pense pas. Si vous voulez bien, on va faire une courte pause. Et au retour, on va rentrer encore plus dans l'US Open parce qu'on va regarder les affrontements de premier tour et les matchs à surveiller en ce début du US Open.
Retrouvez-vous entre amis à la soirée terrasse de l'Hôtel Montville. Rendez-vous le 31 août pour un 5 à 10 au 20e étage. DJ, cocktail et une vue à couper le souffle. De quoi passer une bonne soirée. Réservez sur hotelmontville.com. Voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez Hôtel Montville et profitez d'une offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum. Réservé sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, avec Régent Ball en votre compagnie. Hugues Léger, Nicolas Richard et Isabelle Étier sont en ma compagnie également. Bon, on en parlait en début d'émission, c'est le début du US Open et on va regarder ce qui va se passer, ce qui s'en vient. Je vous propose de commencer à tout seigneur, tout honneur, Félix Auger-Aliassime. Hugues, je vais commencer avec toi. On va affronter McDonald. Pas un match de premier tour facile, mais rendu là, dans le cas de Félix, est-ce qu'il y a un match facile?
Non. Ben, et Félix, on sait, avec sa victoire contre Berrettini au premier tour ou à son premier match à Cincinnati il y a 2 semaines, on a tous poussé lui-même, je pense aussi, un soupir de soulagement. Sa première victoire, un premier match depuis le mois de mai, il était temps. Mais ça s'est terminé rapidement contre Adrian Mannarino par la suite, qui est quand même un joueur compliqué. Mais McDonald, ce n'est pas un tour facile quand même pour lui. McDonald qui a une très bonne saison d'été. Il a bien performé à Toronto, on s'en souvient. Il a battu Rublev et c'est lui qui avait éliminé aussi Miloš. Donc, et en fait, il sera le favori local aussi ce soir sur le cours, enfin, en fin d'après-midi sur le cours numéro 5. Donc, Félix n'est pas sur un très gros show court en passant. Rune joue sur le même court en ce moment et il s'est un peu plaint de son assignation de terrain quand il a appris qu'il jouait sur le terrain numéro 5. Mais bon, c'est comme ça. Match piège pour Félix. J'espère qu'il va passer à travers.
Nico, commentaire sur ce match qu'il opposera à la 40e raquette mondiale?
J'ai pas envie de... Comment dire?
J'ai pas... tout le positivisme dans ta voix. Non, mais ton amorce était absolument... On s'attend à un commentaire très, très, très positif.
C'est juste que... en tout cas, encore une fois, j'ai pas d'attente tant que ça, mais je regarde le tableau et un Félix dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas, on s'entend, mais un Félix dans de bonnes conditions... peut aisément passer à travers ce tableau-là. Évidemment, dépendamment des joueurs qui gagnent et ou qui perdent, ça demande un tournoi du Grand Chelem. Mais si Félix retrouve sa première balle, si Félix peut durer dans de longs échanges, si Félix peut être meilleur au filet, j'ai vraiment envie de penser que Félix peut faire un bon bout de chemin parce que son tableau, mine de rien, puis on fait abstraction de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, son tableau est très prenable. Son tableau, il est favorable. Donc, j'ai envie de dire que si Félix retrouve la forme, retrouve un peu de confiance, on peut espérer 2, 3, pourquoi pas 4 tours. Encore là, je remets les choses et qui ne sont pas dans leur contexte, mais quand même, je pense que c'est un tirage qui est relativement avantageux pour le Québécois.
Il est avantageux, sauf peut-être pour le premier tour. Et je regardais les sites de Paris, messieurs, là. Si je ne me trompe pas et si je lis bien, les cotes, McDonald est favori, en dépit du fait que Félix, il est beaucoup mieux classé. Et ça, Hugues, c'est assez rare qu'on voit ça.
Mais attention, les gars, là. Parlons de la race. Là. On revient tout le temps sur ça. Il joue contre le 40e mondial aujourd'hui. Félix est autour de la 50e place à la race, qui est plus la réalité. Donc, les preneurs au livre, évidemment, c'est des probabilités quand on met une cote. Et la probabilité dans un match de premier tour en 2023, elle n'est pas favorable à Félix, malgré son classement et malgré son talent.
Intéressant. Isa, est-ce que tu t'attends à une rentrée en force de Félix? Est-ce que la séquence, la mauvaise séquence va se terminer pour Félix Auger-Aliassime?
Bien, en fait, j'espère que Félix retrouve Félix. J'espère que Félix va retrouver sa confiance, qu'il va arrêter de douter dans ses points importants, qu'il ne réussit pas. Parce qu'il y a le talent, on le sait. Il y a l'éthique de travail. Il y a tout pour pouvoir y arriver. J'espère vraiment, puis il a donné des entrevues justement, Nicolas en parlait. Je veux que sa mémoire négative soit enlevée, qu'il se rappelle les bonnes sensations. Il y avait eu un bel automne l'année dernière. J'y souhaite ça parce qu'il mérite ça. C'est un bel athlète qu'on aime regarder. C'est notre Québécois. Je pense qu'effectivement, quand on est dans l'autre, de quoi ça va avoir de l'air. Oublions pas qu'à Cincinnati, McDonald, si je me rappelle bien, n'avait pas terminé son dernier match. Il s'était retiré. Si je me rappelle, tu sais, est-ce que lui était sans forme? Comment ça se passe? On est rendu où dans ça? Est-ce que Félix va pouvoir justement arriver en force mentalement? Pour moi, là, c'est mental pour Félix et non pas physique.
C'est un bon point que tu apportes, Isa, du fait que bon, il n'a pas terminé son dernier match contre Manarino. Il perdait 3-0 au deuxième set alors qu'il avait perdu le premier set. Est-ce qu'il a décidé d'abandonner de façon préventive ou pas? C'est une bonne question. Mais il reste que c'est un gars qui est en forme présentement, McDonald. T'en parlais un peu plus tôt, Hugues. C'est le gars qui a battu Milos Raonic à Toronto, mais il avait également battu Karatsev et Rublev dans ce tournoi-là. Il a battu Diego Schwartzman il n'y a pas si longtemps à Washington avant de faire une bonne performance contre Dimitrov. Il a battu Rune qui s'est retiré à Cincinnati. Honnêtement, c'est un gars qui a battu des gros noms. Là. C'est pas évident pour Félix au premier tour. Par contre, Nico, tu le spécifiais, il y a quand même, le tableau s'ouvre quand même là, pour Félix si jamais il devait passer le premier tour. Après ça, c'est des gars classés au-dessus de la 100e place mondiale au deuxième tour. Et au troisième tour, tu as pour l'essentiel des gars challenger et ou Francesco Cerundolo.
Ouais, Cerundolo, oui. Ouais.
Et ça, c'est intéressant parce qu'on a vu Alexis Gallarneau chauffer Cerundolo il n'y a pas si longtemps et je ne veux rien enlever à Alexis, mais Félix est un bien meilleur joueur qu'Alexis au moment où on se parle. Et bon, de la façon dont Alexis a chauffé Cerundolo, je pense qu'on pourrait définitivement placer Félix favori dans ce match-là. Et après, s'il fallait qu'il atteigne le quatrième tour, eh bien là, on dirait mission accomplie. Est-ce que ce serait possiblement Novak Djokovic? Nico, est-ce que tu penses que Félix va se rendre jusqu'à Novak?
Oui. Oui.
Ouais, c'est plus convaincant, ça, Nico.
J'ai envie de te dire oui parce qu'on sait qu'il est capable. Maintenant, c'est de le mettre en application. Est-ce qu'il a le talent pour le faire? Assurément. Est-ce qu'il a la confiance pour le faire? Je ne penserais pas. Mais si les pions s'alignent et si Félix est sous une bonne étoile à Flushing Meadows, je pense que c'est prenable. Il faut penser que c'est prenable.
Ben, les gars, n'oubliez pas que Cerundolo a battu Félix en 2-7 à Miami, là, 6-2, 7-5. Il n'avait pas fait un très bon match. Là, le premier, je me souviens du premier set, c'était un peu compliqué. Donc, encore une fois, il faut qu'il passe McDonald. Après, il y aurait Cerundolo potentiellement au troisième tour. Moi, je l'ai dit il y a une semaine, si Félix se rend en deuxième semaine au US Open, ça serait une très belle surprise. C'est vraiment ce que je lui souhaite. Mais le parcours est très ardu d'ici là. Donc, comme on le dit, le proverbial, un match à la fois, là, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on est pour Félix cette semaine. Ouais.
Moi, je l'ai mis jusqu'à Novak Djokovic dans mon tableau des prédictions. On pourra en parler un peu plus tard. Mais je pense que, écoute, je pense que s'il passe McDonald's, je pense que ce sera le cas. Mais c'est un bon défi là, au premier tour. Ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Autre joueur qu'on va surveiller, ben c'est Milos contre Tsitsipas. Hugues, je commence avec toi.
Ouais.
Là, Milos, il n'y a pas des tirages faciles dans ses derniers premiers tours. Là.
Ah, ben écoute, là, il est sur un protected ranking, pardon, là, donc, ce qui fait qu'il rentre dans le tableau principal. Donc, il rencontre Tsitsipas, Stefanos, le 7e favori du US Open cette année. Ce qui est le fun, c'est qu'ils mettent ce match-là sur le Louis Armstrong, là, qui est le cours numéro 2, en fait, là, au niveau des show courts. Ce n'est pas le central, Arthur Ashe. C'est l'ancien central, en fait, le Louis Armstrong. Donc, c'est un match vedette aujourd'hui, ce qui fait plaisir pour Milos. Encore une fois, tout va dépendre de son service, de la première volée qui va suivre, du premier coup droit qui va suivre pour réussir à amener ces sets-là à la fin dans le business end, dans des 7-5 ou dans des tie-breaks. Mais c'est un match de premier tour costaud pour Raonic. Puis je le dis, sa performance va lui donner des indices sur la suite pour lui aussi. S'il fait un match serré à Tsitsipas, même s'il ne le gagne pas, peut-être ça va lui donner envie de continuer un peu quand même. S'il y a une défaite sèche contre Tsitsipas, ça va lui dire, ben écoutez, les gars du top 10, pour moi, top 20, pour moi, c'est peut-être plus atteignable. Donc, on verra. Mais j'ai bien hâte de voir ce match-là sous les projecteurs du Louis Armstrong ce soir.
Je vais me prononcer. Je pense qu'il a prouvé assez pour prouver qu'il est encore très capable de jouer sur le circuit. Maintenant, ça va dépendre à lui de voir comment il se sent dans son corps. Les blessures ont été là une bonne partie de sa carrière. Est-ce qu'il veut continuer un peu comme Andy Murray, puis hypothéquer une partie de ton après-carrière? Ben, peut-être, peut-être pas. Enfin, on verra. Nico, est-ce que tu donnes une simple chance à Milos contre Tsitsipas?
Je suis plutôt optimiste. Pour deux raisons. D'abord, Tsitsipas est loin d'être le meilleur en retour de service, ce qui est un avantage assez névralgique pour Milos Raonic, qui sert vraiment très, très bien. On le voit à Toronto, n'a rien perdu de sa verve au service. Et l'autre point, c'est qu'il y a quoi? Il y a 3 semaines à peine, Miles Raonic battait un Francis Tiafoe sur un central. Et on sait que Tiafoe, dans cette période-ci de l'année, il est à son meilleur, en principe. Ouais. Et Raonic, à son retour au jeu sur dur, l'a battu. Présentement, dans ce genre de contexte, je le répète, au US Open, j'ai tendance à donner avantage à Tiafoe plutôt qu'à Tsitsipas sur cette surface nord-américaine.
Oui.
Et Raonic a battu Tiafoe. Évidemment, ce n'est pas un rapport de causalité. Néanmoins, ça demeure que Raonic a prouvé, comme Alex l'a dit, qu'il est capable de jouer à ce niveau-là. Ça demeure que Tsitsipas, il est très, très bon. Il est top 10, il est 7e tête de série. Mais même si je pense qu'ultimement, Miloš va signer incliné dans ce match-là, j'anticipe un 3-7, un 3-7 coriace et serré.
On va y revenir, là, mais moi, Tiafoe, c'est peut-être mon wild card pour remporter ce tournoi-là là, dans les joueurs qu'on attend un peu moins. Là.
Je rajoute un petit point sur Raonic contre Tsitsipas. Le service sortant au revers de Tsitsipas pourrait être payant pour Raonic aujourd'hui. C'est un service qu'il maîtrise très bien. Le revers à une main de Tsitsipas va être vraiment sous pression dans ce match-là. Et, moi aussi, je m'attends à quelque chose là, comme un 7-5, 7-6, 7-6, là, 6-4. Ça va être des sets très serrés. Mais Tsitsipas devrait trouver une solution quand même.
Et autant à l'inverse, Hugues, le service sortant de Raonic au revers est très, très bon. 2 fois pendant l'Omnium à Toronto.
Exact.
Il a gagné le match sur un as en 2e balle sur un sortant du
point.
Il maîtrise tout également. Donc, autant ça peut nuire à Tsitsipas, autant ça peut aider Miloš Raonic.
Absolument.
Oui, c'est tout à fait.
Nico, pendant qu'on jasait, Isa m'a envoyé une note. Tu seras content d'apprendre que Mackenzie McDonald est né à Piémont.
Pas notre Piémont national.
Non, ce n'est pas notre Piémont. C'était ça, la petite blaguette. C'était le Piémont à côté de chez vous, le Piémont en Californie. Mais j'étais curieux
Tu l'as jamais vu dans le MSSI, Alex?
Ouais, c'est ça. En deux cours de tennis, il venait donner des cours de ski. C'est moi qui ai donné des formations pour mon Saint-Sauveur à l'époque. Chic type, Mackenzie McDonald. Peut-être qu'on aurait dû en profiter pour s'assurer qu'il prenne une débarque pour qu'il soit dans les jambes de Félix. Mais écoute, on ne pouvait pas voir aussi longtemps d'avance. Non, sans blague, c'était la note. Merci, Isa, pour ce fait cocasse de savoir qu'il est né à Piémont. Ça fait plaisir au gars du Nord, là, qui est Nicolas Richard. Petit commentaire aussi sur Shapovalov qui s'est retiré de ce tournoi-là. Si vous n'êtes pas au courant, mais il ne sera pas au US Open. Et là, ben ça pose beaucoup de questions pour l'avenir. Là. La Coupe Davis, je ne sais pas s'il a annoncé qu'il allait jouer ou qu'il n'allait pas jouer, mais ça ne regarde pas bien là, pour Shapovalov. J'ai l'impression qu'il prioriserait le US Open à la Coupe Davis qui vient tout juste après. Là. Hugues, je ne sais pas quoi penser de cette situation-là.
Ouais, ben visiblement, il a besoin de repos hein, pour son genou. Donc, à suivre, il faut qu'il règle ce problème physique avant tout. Mais encore une fois, une saison décevante pour Shapovalov. Et le temps commence à filer. Je dirais pas, il n'est pas en fin de carrière, hein, Denis Shapovalov, mais c'est compliqué. Il n'aura pas trouvé depuis 2-3 ans. Une vraie régularité. On pensait qu'il y aurait une très bonne saison, hein, notamment Nicolas et moi après la Coupe Davis. C'est un bon automne quand même, mais il n'y a pas eu de déclic encore pour Shapovalov. Donc, c'est dommage qu'il soit mis de côté, là, surtout dans une séquence Toronto, US Open, qu'il aime bien aussi. Donc, à voir pour la suite.
Bianca aussi a annoncé son retrait de ce tournoi-là. Ça explique peut-être un peu plus... les raisons qui ont fait que, bon, on l'a vu à Montréal perdre peut-être un peu plus tôt qu'on l'aurait voulu. Nico, tu voulais acheter quelque chose?
Je veux pas non plus partir un autre débat, Alex. Je sais pas si on a le temps ou tu t'en allais là, mais je commence à être drôlement inquiet pour Bianca pour une raison. Puis j'expliquais à des copains ce matin. Lorsqu'il y a certains athlètes qui se blessent de manière régulière à un seul endroit, par exemple, Roger Federer, c'est toujours le genou. On sait que le problème, c'est le genou. Cependant, pour Bianca, des fois, c'est le dos. Des fois, c'est l'épaule. Des fois, c'est la cheville. Des fois, c'est le genou. Et cette espèce de comment dire? Elle se blesse...
Récurrence.
Oui, puis elle se blesse souvent à des endroits qui ne sont pas réguliers. C'est rare qu'elle se blesse au même endroit. Puis je me demande si c'est problématique. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas un spécialiste du domaine de la santé. Mais d'un point de vue extérieur, ça m'inquiète de voir qu'elle est fragile à peu près partout et non pas à un seul endroit. Je ne sais pas si vous avez la même réflexion.
Ouais,
lorsque j'ai vu que c'était au dos cette fois-ci, je me suis dit, OK, une autre place où elle deviendra fragile pour l'avenir.
Oui. Ben, moi, je me disais que physiquement, ça irait mieux parce qu'elle est plus fit. Elle a perdu un peu de poids, là, faut le dire. Elle nous en a parlé aussi. Elle est très bien physiquement. Mais effectivement, il y a des blessures, d'autres blessures qui commencent à apparaître après d'une petite fracture de stress. Elle disait, c'est pas si inquiétant que ça. Vous vous souvenez, à Montréal, généralement, on peut jouer avec ça puis ça s'améliore. Mais visiblement, si elle se retire du US Open, c'est quand même assez sérieux, assez dérangeant et incommodant pour elle. Donc, c'est un petit peu comme Chapovalov. Bon, elle est plus jeune, Bianca. Elle a 22 ans, rappelons-le. Même si c'est une championne du US Open en 2019, toute jeune, elle a des bonnes années devant elle, mais il faut qu'on réussisse à jouer régulièrement sur le circuit. Et depuis déjà 2-3 ans, il n'y a pas eu de tennis régulier pour Bianca Andreescu. C'est ça qui est un peu préoccupant.
Autre joueuse qu'on va surveiller au-delà de Bianca Andreescu, c'est évidemment Leila Fernandez. Elle va affronter la 20e joueuse mondiale au premier tour. C'est un bon défi, Alexandrova. Elle a quand même une fiche de 1-1. 1-1 contre Alexandrova. Moi, je l'ai fait aller jusqu'au troisième tour où elle affronterait possiblement Vondrousova. Nico, est-ce que je suis trop optimiste? Est-ce qu'elle va d'abord et avant tout passer le premier tour? À quoi est-ce que tu t'attends?
Ce sera compliqué, je pense, mais elle n'en pas moins. Oui, on a beau dire que Leila n'a pas de rythme, que pour Leila, ce n'est pas une bonne année, mais mon Dieu, qu'elle n'est pas chanceuse dans ses tirages. Rappelez-vous, à Wimbledon, elle a pris Garcia, je pense, dès le deuxième tour. Est-ce que c'est à Wimbledon? Enfin, bref, la plupart de ses tirages à Leila dans les tournois importants ne sont pas favorables. Oui, ça n'excuse rien parce qu'elle peut gagner ces matchs-là, mais quand même, elle n'a jamais de chance. Elle n'a jamais un tirage qui est favorable. Puis, ultimement, je pense que ça peut changer le cours d'une saison parce que si ça arrive une fois ou deux, ça va, là. Mais pour Leila Fernandez, regardez les tirages dans les tournois importants cette année et c'est toujours, toujours de gros duels.
Ce qui est bien, c'est qu'elle remonte tranquillement au classement malgré tout. Et ça va lui donner des premiers tours peut-être un peu plus prenables. On se souvient, avant Montréal, c'était 88. Après, 71e, là, il est autour de la 65e place aujourd'hui. Donc, ça va donner des débuts de tournois un peu plus gérables. Je pense, comme Isabelle, qu'elle va avoir des bonnes sensations au US Open. Elle a vécu des grands moments-là, les plus grands moments de sa carrière avec la finale, évidemment, dont on se souvient. En 2021. Moi aussi, je l'ai mis jusqu'à Vondrousova, donc au troisième tour pour le tableau de cette année. Et je pense qu'elle va sortir son grand tennis là, demain quand elle va entamer le tournoi, même si elle n'est pas favorite dans ce match de premier tour. Mais encore une fois, Leila, je suis revenu en situation wait and see un peu pour Leila. Je suis inquiet des fois de voir ses choix tactiques. C'est difficile parce que physiquement, elle est menue. Elle se fait souvent un peu bousculer quand elle veut jouer son jeu d'attaque sur la ligne. Elle manque un petit peu de puissance pour rivaliser avec plusieurs joueuses. Et quand ça ne marche pas, ben, elle n'a pas souvent de solution. Donc, espérons qu'elle va être sur son X ce soir, comme dans son match contre Adad Maia à Montréal. Et je la verrai bien jusqu'au troisième tour cette année.
Les dernières semaines ont quand même été relativement positives comparées à sa saison de façon générale, en dépit d'une défaite en qualification à Cincinnati. Isa, est-ce que tu t'attends à voir Leila faire un certain parcours? Évidemment, avant de recevoir la championne de Wimbledon au troisième tour, ce ne serait pas évident. Mais il reste que, est-ce que les dernières semaines t'ont rassuré dans son cas?
Bien, c'est sûr que ça m'a donné espoir. Puis s'il y a une chose dans quoi j'ai confiance avec Leila, c'est sa force mentale. Elle a cette combativité, elle a cette capacité de vraiment, point après point, même si ça ne va pas bien, de ramener. Et moi, c'est sa force de caractère que j'admire énormément. On le voit, puis présentement, ça va bien, je pense, dans sa tête, physiquement aussi, mais dans sa tête. Fait que je pense que lorsque tu veux comme ça, ben il y a pas de limite pour une Leila. Mais peu importe qui est devant elle, c'est sûr que ça sera pas facile. On s'attend à je m'attends à un bon match. J'espère avoir. Je vais sortir mon popcorn, bien entendu. J'ai deux matchs popcorn à regarder et je vais le prendre chaud avec ben du beurre.
Ben, merci pour l'update sur ton popcorn, Isa. Du côté de Rebecca Marino, Hugues, bon, elle affronte Patricia Mariatic, qui est une ancienne 56e mondiale. Elle a virtuellement pas de classement cette année. Elle a fait quelques premiers tours dans des tournois, des challengers, mais elle n'a pas joué nécessairement beaucoup. Tout ça pour dire que ça pourrait être prenable pour Rebecca Marino au premier tour au US. Ouais.
On en parlait depuis quelques semaines. Moi, je préfère les chances de Rebecca dans des tableaux de 128 que dans des tableaux de 96 ou 64. Là. Donc, je pense qu'elle va aller, chercher une ronde au US Open qui va lui donner un beau prize money. On en parlait un petit peu plus tôt. Ça serait satisfaisant pour elle. Là, puis je pense que ce match-là est à la portée. Est-ce qu'elle peut faire 2-3 tours? Ben, c'est plus compliqué. Mais d'avoir deux Canadiennes quand même, là, sans Bianca Andreescu dans le tableau principal du US Open, c'est une très bonne chose. Bien de voir ce match-là, mais moi, je vous le dis, l'état d'esprit de Rebecca, il est différent cette année. Elle est beaucoup plus cool, on la sent moins stressée, moins anxieuse. Je pense qu'elle profite plus de ce qu'elle a accompli et de ce qu'elle fait en ce moment. Et tout ce qu'elle va chercher en ce moment, c'est du bonus, je crois, pour elle. Donc, elle n'a pas du tout la même approche, j'ai l'impression, au jeu, que même il y a un an ou deux, où elle était plus anxieuse là, dans ses entames de tournoi et en général. Et on l'a vu à Montréal, on lui a tous parlé. On voit qu'elle est dans de bonnes dispositions, mais le deuxième tour, si elle passe, c'est la gagnante de Pegula, Georgie, qui est un autre match popcorn de premier tour, je peux vous dire ça. Ça va être intéressant de suivre ça. Pegula, troisième favorite, gagnante de Montréal. Donc, dès le deuxième tour pour Rebecca, là, je pense que ça risque d'être plus compliqué.
Oui, quelques matchs intéressants à surveiller. Avant qu'on aille à la pause, juste un élément que j'ai oublié de mentionner dans le cas d'Alexandrova, qui n'est pas une bonne nouvelle pour Leila. Alexandrova arrive tout juste d'une finale à Cleveland, où elle a perdu contre Saribai Stormo. Alors ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle d'arriver contre une fille qui a déjà autant de rythme. Là. Alors, pour ajouter à la complexité pour Leila Fernandez, mais écoute, tu dois gagner ces matchs-là à un moment donné si tu veux pouvoir avancer dans les tournois. On va faire une courte pause et au retour, on va parler un peu d'équité avec Isabelle Étier.
Retrouvez-vous entre amis à la soirée terrasse de l'Hôtel Montville. Rendez-vous le 31 août pour un 5 à 10 au 20e étage. DJ, cocktail et une vue à couper le souffle. De quoi passer une bonne soirée. Réservez sur hotelmontville.com. Voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez Hôtel Montville et profitez d'une offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum. Réservez sur hotelmontville.com.
Avant d'aller parler ce qui entoure le US Open, si on a un peu de temps en fin d'émission, on pourra parler de quelques autres matchs à surveiller. Mais Hugues, il y a déjà quelques matchs de terminés dont tu voulais souligner ces matchs-là.
Oui, ben déjà la victoire de Dominique Thiem là, contre Bublik, qui était un de nos matchs à suivre là, du premier tour. Belle victoire de Dominique Thiem, donc ancien champion du US Open, on en parlait donc en début d'émission. Donc, et Thiem qui passe et qui va rencontrer au deuxième tour Ben Shelton, qui est passé aussi ce matin. Donc, un des Américains là, qu'on va suivre avec notamment Eubanks, qui a eu tout un tournoi à Wimbledon, on s'en souvient. Donc, Thiem qui gagne 6-3, 6-2, 6-4 contre Bublik. Shelton qui bat l'Argentin Cachin 1-6, 6-3, 6-2, 6-4. Mais attention en ce moment, Olga Rouni, quatrième favori, se fait bousculer par Carbales Baena sur le cours numéro 5. Là. Rouni a échappé le premier set, 6-3.
Et Alex, si je peux me permettre, c'est ce que j'allais dire.
Attends, ben vas-y, permets-toi. Parle-nous de
ça. C'est juste que Maria Sakkari, qui s'est inclinée dès le premier tour contre Rebecca Mazarova, il y a quelques semaines dans la presse, j'écrivais que malheureusement pour Sakkari, son principal problème, c'est qu'elle était incapable de se lever dans les moments importants. Ça a été questionné, je pense, aussi à Montréal. Oui, elle est dans le top 10 depuis longtemps, mais incapable de progresser comme son talent pourrait le faire, tu sais, ultimement. Mais donc, défaite de premier tour qui fait très mal, d'autant plus qu'elle a un tableau très prenable, elle aussi. Donc, défaite assez surprenante de premier tour.
T'as raison, Nico. Puis c'est la fille, on discute un peu sur le circuit. Ce qu'on entend, c'est que c'est la fille qui perd en quart de finale puis en demi-finale.
Exact.
Mais là, si elle s'incline dès le premier tour du US Open, ça va être un gros coup pour elle. J'ai hâte de voir comment elle va se remettre de cette défaite-là.
Ah, écoutez, c'est pas si facile que ça. On le dit toujours, hein, le top 10, ça fait pas fois de tout. Regardez Félix, regardez Casper Ruud. Moi, j'ai bien hâte de voir Casper Ruud dans ce tournoi-là. Je ne serais pas surpris qu'il se fasse sortir assez tôt. D'ailleurs, moi, je l'ai sorti assez tôt dans mon tableau. Là. Je ne lui ai pas donné un long tournoi. Mais une chose qui est importante de parler, c'est que Le US Open a fait figure de changement important dans l'histoire du tennis. Et Isa, c'est une année bien spéciale pour célébrer tout ça parce que le US Open, qu'on le veuille ou non, a été très, très, très avant-gardiste sur beaucoup, beaucoup d'éléments, notamment grâce à Billie Jean King.
Effectivement, cette année, on souligne, on célèbre, on met vraiment de l'avant les 50 ans. Donc, il y a 50 ans, c'était le premier tournoi où on avait une équité au niveau des bourses. C'était un grand chelem, c'était le premier. Et c'est vraiment important de le mentionner. C'est ce qui a ouvert la voie, qui a pavé la voie. Je vous parle souvent, on parle de Billie Jean King. Bon, on l'a dit d'entrée de jeu. Justement, il y a The Battle of the Sex contre Bobby Riggs, qui a été vraiment un moment aussi charnier. Bon, la création de la WTA, quelques années avant, la signature, là, la nouvelle ligue qui avait été créée par les Original Nine. Donc, rapidement, faut souligner ce moment important parce que c'est ce qui a permis d'ouvrir la voie sur beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, on est 50 ans plus tard, on en a parlé cet été, le Miam Banque nationale va avoir des bourses équitables en 2027. Ça ouvre la voie un peu partout. Mais là, au US Open, cette année, c'est 50 ans. On le souligne en grand. Une célébration ce soir. Il y avait un gala en fin de semaine. Vous avez vu sûrement passer sur les médias sociaux. Billie Jean King, elle est très présente. If you can see it, you can be it. Donc, de le voir, on peut croire à y arriver. Et la présence est importante. Je prends une petite mention ici. J'ai envie de vous parler de la campagne, de la nouvelle collection de New York, la collection de New York de Adidas, qui met en vedette, justement, notre gagnante de Montréal, Jessica Pegula, notre fameux Félix Auger-Aliassime qui fait partie de ça. Ils ont ramené la collection bleue pour se rappeler les souliers bleus qu'elle chaussait Billie Jean King au moment qu'elle a remporté son match contre Bobby Riggs. Donc, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, allez voir ça sur les médias sociaux. C'est ça le post que Billie Jean King a republié là, sur les médias sociaux de moi. Je trouve ça important de le souligner. C'est important de l'amener et ça fait avancer des choses. Heureusement, on le dit, le tennis est en avance sur tous les sports. C'est pas encore l'équité, mais on est sur la bonne voie. On le sait que la WTA cet été a annoncé en juin comme quoi tous les tournois majeurs mixtes de niveau 1000 seront équitables en 2027. On sait qu'on a un target de 2033 pour ce qui est des WTA 500. Donc, on va y arriver éventuellement. Mais j'ai envie aussi de vous parler, messieurs, de la nouvelle politique de l'ATP. Là, vous allez me dire que tu passes des femmes aux hommes, mais je trouve ça intéressant parce que il y a un progrès au niveau des salaires pour la politique salaire, un minimum garanti pour les joueurs. Je vous explique le baseline. Le top 100 a un salaire garanti de 300 000 $ par année à partir de l'année prochaine. De la 101e à la 175e vont avoir un salaire garanti de 150 000 et puis je pense que de 176e à la 250e, c'est 75 000. C'est pas beaucoup et beaucoup à la fois. Il faut comprendre que quand on regarde les grands chiffres, on regarde le top 10, là, ils font beaucoup d'argent, puis on regarde des gros montants qui sortent. Mais la réalité d'un joueur de tennis est tout autre. Quand tu te retrouves, on parlait tantôt là, beaucoup des bourses. On dit, hey, le US Open, justement, on a 65 millions total en bourse cette année. Le gagnant va avoir 3 millions. On parle, tu sais, le finaliste, 1,5 million. Paris en qualification, on parle de 20 000. C'est énorme, ça peut faire une différence dans une carrière. Ça, c'est important de souligner. Et c'est aussi une réalité qu'on oublie quand on regarde les grands joueurs. C'est une réalité qu'on se doit de regarder aussi du côté féminin. On n'a pas ça, cette garantie-là. Puis, ça serait important de le mettre aussi de l'avant. Ça va faire partie, j'imagine, des enjeux qui vont vouloir en parler, les filles. Parce que, rappelez-vous, aussi, je sais pas, tu sais, Denis Shapovalov, malheureusement, qui est absent, avait fait une sortie le 7 mars dernier. Et il expliquait, il s'est ouvert le cœur sur comment lui a vécu son parcours, son développement, comme quoi qu'il n'avait pas les sous, puis comme quoi la grosse différence de bourse entre lui et sa copine, Myriam, qui d'ailleurs a passé les qualifications. Elle est qualifiée, ouais. Là, elle va rentrer sur le tableau principal. On lui souhaite bonne chance. Et c'est quand même une réalité qu'il faut mettre de l'avant, de s'assurer d'avoir des hommes, des femmes qui vont pouvoir continuer à être dans leur tennis, avoir les bourses pour y arriver. Fait que si je vous reviens au niveau de la politique salariale, bon, je vous ai parlé des montants, mais il y a aussi deux autres endroits où ils veulent investir dans les nouveaux joueurs. Donc, pour la première fois, lorsque tu es dans le top 125 pour ta première année, tu as un salaire garanti de 200 000 pour t'aider justement à avoir les moyens de passer au prochain niveau. Et il y a aussi la protection de blessure là, qui amène aussi des montants. Fait qu'on voit quand même que c'est un sport, autant du côté masculin que féminin, qui tente de trouver des solutions pour aider à une meilleure équité. Puis quand on dit d'équité, on parle beaucoup des femmes, mais il y a une équité aussi des hommes et des femmes, d'avoir des chances égales, de pouvoir se donner la possibilité de pouvoir performer.
Oui, c'est intéressant ces politiques-là. À plusieurs niveaux. Bon, celle par rapport aux blessures, pour moi, est la plus importante, là, où est-ce qu'on va offrir une certaine sécurité. Et pour préciser ce que tu disais, on va offrir un espèce de salaire garanti, c'est-à-dire que les bourses sont inférieures au montant qui correspond à ton classement, eh bien, on va subventionner finalement le reste du salaire, ce qui est une excellente nouvelle pour des joueurs, par exemple, comme Alexis Galarneau, pour qui ces montants-là font toute la différence. Et pour ajouter à ce que tu disais, Isa, on parle de 50 ans et le US Open était précurseur, pas à peu près, parce qu'on avait des bourses égales en 1973, et le premier tournoi du Grand Chelem qui a suivi par la suite, c'est 2001 là, en Australie, ouais. 2006 à Roland-Garros et 2007 à Wimbledon. Alors, les autres tournois ont pris beaucoup, beaucoup plus de temps à arriver là, et là, ça semble un peu garanti depuis, presque une vingtaine d'années là, dans les quatre tournois du Grand Chelem, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Bon, évidemment, il n'y a pas juste un enjeu de sport, là, il y a un enjeu d'exposition médiatique, là. C'est pas comme femme, je veux dire, aller parler à n'importe quel athlète de canoë-kayak, fait pas des millions par année pour l'essentiel, et c'est un athlète au même niveau, qu'il soit homme ou femme, peut-être parmi les meilleurs au monde de sa discipline, comme le sont les joueurs de tennis de ce point de vue. Alors, je trouve ça bien intéressant d'en parler, parce que le US Open était précurseur, et encore une fois, je souligne, bravo à Billie Jean King qui a mis son pied à terre. Tu parlais du film Battle of the Sexes. Je pense que c'est avoir un portrait de Billie Jean King magnifiquement bien joué par Emma Stone. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Merci Isa pour ça. Je pense que ça reste intéressant de parler de ces éléments-là avant le tournoi. Et Nico, vêtu de ton chandail de Roger Federer, comme c'est la tradition, je vais te demander de terminer l'épisode d'aujourd'hui.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis Isa, bon tennis tout le monde.